Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue sur Antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h sur Antenne de Graphite Biotine, l'émission d'actualité scientifique. N'oubliez pas que la rediffusion de l'émission est également proposée le mardi matin à 10h. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre, déjà, passe vite, hein, fin novembre. En 1814, The Times est le premier journal à être imprimé avec une presse typographique à vapeur. 1814, un 29 novembre. En 1961, c'est le lancement d'une mission spatiale de la NASA avec un chimpanzé qu'on a mis comme cobaye à bord. Nous sommes le 29 novembre 1961. Le chimpanzé s'appelait Enos. Et plus récemment, en 2016, c'est l'inauguration de la nouvelle arche de la centrale de Tchernobyl. C'est le dispositif de confinement du réacteur. C'était il y a donc 9 ans. Vous avez peut-être vu à l'époque un petit peu cette grande arche qui recouvrait ce réacteur. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de Tchernobyl parce qu'il y a un phénomène assez étrange avec des chiens bleus qui circulent autour de Tchernobyl. On verra ça dans cette émission. Naissance de Christian Doppler, qui est donc né un 29 novembre 1803. Alors Doppler, ça nous dit peut-être un petit peu quelque chose. Il y a parfois certains scientifiques qui ont eu la chance, entre guillemets, de voir leur nom passer à la postérité. Doppler, c'est un mathématicien et un physicien autrichien qui est donc célèbre pour une découverte, les découvertes de l'effet Doppler, parce qu'on a donné son nom à cet effet. En fait, dans les années 1820, Doppler étudie la physique et les mathématiques à Salzbourg et à l'Institut Polytechnique de Vienne, où il est nommé professeur assistant de mathématiques. Ce poste n'est pas renouvelé, il envisage un temps une émigration vers les États-Unis. Il sera ensuite prof de maths, il est professeur également de géométrie pratique, mais il est resté quand même au niveau de l'Europe centrale à Prague. Il est affecté d'une silicose, mais il est largement secondé par sa femme dans son activité scientifique et didactique. Il quitte ses fonctions en 1852, il a donc à l'époque 49 ans, pour se retiré à Venise, qui était à l'époque une cité portuaire de l'Empire autrichien. Malgré la douceur du climat de l'Adriatique, il meurt quelques mois plus tard. Il est donc disparu de façon un petit peu prématurée et il n'a pas pu connaître les avancées qui ont été réalisées par ses contemporains. Mais il avait découvert une nouvelle méthode de mesure fondée sur la physique ondulatoire qui est l'effet Doppler. L'effet Doppler, ça correspond au phénomène physique selon lequel, alors ça c'est la définition que je vous donne, la fréquence d'une onde est modifiée lorsque la source émettrice de l'onde est en mouvement. L'effet Doppler, il a fait que les ondes mécaniques comme le son et les ondes électromagnétiques comme la lumière visible. Alors, quand on vous dit ça, c'est pas nécessairement évident à comprendre. Et l'une des illustrations qu'on a tous vues, c'est quand il y a une ambulance qui est dans une rue et qui s'approche du piéton. Il entend le piéton une sirène plus aiguë que lorsque l'ambulance est immobile. Et puis quand l'ambulance elle passe et qu'elle s'éloigne, il va entendre une sirène qui est plus grave. Faut pas se leurrer, le son de la sirène est toujours le même, mais la position du piéton par rapport à cette ambulance qui passe et les ondes qui arrivent de plus en plus proches, c'est ça l'effet Doppler. L'une des explications, c'est notamment au niveau de la physique et au niveau de l'industrie, il y a pas mal de choses qui utilisent cet effet Doppler. Mais au départ, on est quand même là dans le début du 19e, enfin milieu du 19e siècle, on ne maîtrise pas encore totalement tous ces effets-là, ces effets de l'onde. L'onde mécanique illustrée par le son. Mais Doppler, lui, avait compris cela. Il n'avait pas nécessairement eu le temps de pouvoir formaliser toute cette découverte. Et il est mort trop tôt. Et c'est deux contemporains qui s'appellent Bunsen et Kirchhoff qui, eux, ont pu essayer de finir un petit peu ses travaux. Mais on a finalement donné le nom de cette découverte, le nom de cet effet, le nom de Doppler à cet effet. Décès, cette fois, le 29 novembre à Rome, 1694. Alors on part au XVIIe siècle, de Marcello Malpighi, médecin naturaliste italien. Il est considéré comme le fondateur de l'anatomie microscopique ou ce qu'on appelle l'histologie. L'histologie avec un H, c'est l'étude en fait des cellules de notre corps humain. On est vraiment au XVIIe siècle, c'est quand même assez intéressant. Son nom reste attaché rattaché aux structures dont il a donné les premières descriptions. Malpighi est un nom vraiment très important dans le domaine de la médecine anatomique. Alors, c'est pas nécessairement un nom qui est passé à la postérité, mais en tout cas très très important de ces découvertes de cet médecin naturaliste italien du XVIIe siècle, donc dont célèbre donc aujourd'hui son décès. Il est décédé le 29 novembre 1684. 14, voilà pour l'éphéméride de cette émission. Alors, la semaine dernière, on avait terminé l'émission avec une façon peut-être un petit peu plombante, et je m'en excuse, parce qu'on avait parlé de l'influence que les réseaux sociaux pouvaient avoir sur la santé mentale des jeunes. Eh bien, on va commencer cette émission toujours sur cette même thématique un peu plombante, parce que il y a quand même de plus en plus d'articles qui sont présentés dans les revues scientifiques et qui abordent ces sujets. Et là, on va notamment évoquer l'intervention de psychiatres qui ont été appelés en urgence, notamment pour corriger ChatGPT. Vous voyez au point où on en est. Il y a eu les parents du jeune Adam qui ont porté plainte en août dernier contre cette intelligence artificielle générative, et c'est le branle-bas de combat chez la maison mère de ChatGPT qui est OpenAI. Pour rappel, Adam, c'est un adolescent américain qui s'était suicidé après avoir longuement parlé de sa souffrance psychique à ChatGPT, et ChatGPT lui avait en effet délivré des conseils pour réussir son passage à l'acte. Alors, c'est pas un cas isolé. Les suicides liés à des échanges entre des adolescents et des intelligences artificielles génératives sont en effet de plus en plus souvent à la une des journaux. Dans un article du blog d'OpenAI, l'entreprise créatrice de l'agence conversationnelle le plus populaire, on peut lire que chaque semaine, 0,15% des utilisateurs font part à ChatGPT d'intention de se suicider. 0,07% présentent des signes d'urgence de santé mentale, parce qu'une dépression grave, une psychose. Et 0,15% présentent un attachement émotionnel inquiétant par rapport à ChatGPT. Alors, c'est des chiffres qui peuvent paraître faibles, parce que je vous ai dit 0,15, 0,07. Oui et non, parce qu'il faut savoir qu'il y a 800 millions de personnes qui se connectent chaque semaine à ChatGPT. Donc 0,1% de 800 millions, c'est énorme comme chiffre. Et on peut donc estimer à 1,2 million de personnes suicidaires, 1,2 million de personnes qui ont un attachement pathologique et un peu plus de 500 000 qui présentent des symptômes de psychose ou de manie, genre de troubles bipolaires. Pour améliorer l'efficacité de ChatGPT, à répondre aux réels besoins de ses utilisateurs et à prévenir les suicides, les créateurs donc d'OpenAI ont sollicité plus de 150 psychologues et des professionnels de santé mentale. Et donc, selon l'article de ce blog qui a été ensuite relayé par le site de Futura Science, la nouvelle version de ChatGPT est désormais capable de mieux reconnaître et de soutenir les personnes en détresse, de les guider vers des professionnels et de les rediriger vers des numéros d'urgence quand elles expriment des pensées suicidaires. Les modifications opérées dans le modèle auraient ainsi permis, nous dit ce blog, de faire baisser le nombre de réponses inadéquates de 65 à 80%. Alors, quels vont être les résultats par la suite, on verra bien sûr, mais là on est vraiment aussi sur une, comme je vous le disais la semaine dernière à la fin de cette émission, on est de plus en plus sur des articles, donc sur des études, sur des recherches qui sont menées sur ces sujets-là, sur l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux, les intelligences artificielles sur la santé mentale. Alors, la semaine dernière, c'était les jeunes. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus général. Mais c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui est de plus en plus documenté par la littérature scientifique. Et effectivement, on se rend compte que ce sont des articles qu'on évoque dans ces émissions qu'on n'évoquait pas il y a quelques mois, parce que les recherches n'étaient pas encore abouties. Là, on est de plus en plus sur des études qui sont à la fois un petit peu plus détaillées, un petit peu plus enrichies aussi par la littérature scientifique, et qu'il y a de plus en plus de colloques internationaux qui abordent ces sujets-là. On est vraiment sur un, comment dire, sur un phénomène de très grande ampleur. Et là, le fait d'insister sur le fait que quand on dit 0,1%, c'est pas énorme, ça dépend le 0,1% de quoi, quel est ce quoi. Si c'est quelque chose d'assez volumineux, ça a un impact qui n'est absolument pas négligeable, bien évidemment. Donc c'était voilà, un article, j'avais pas eu le temps la semaine dernière de pouvoir terminer cette phase un petit peu plombante de cette émission la semaine dernière, donc on démarre comme ça avec cette année, mais voilà, c'était quelque chose qui était assez important à évoquer pour bien terminer cette thématique de la semaine dernière. Retour à l'actualité scientifique cette semaine sur graphite. On va passer aux États-Unis. On va aller voir ce qui se passe là-bas parce que y a souvent, depuis la rentrée de septembre, très souvent dans cette émission, on aborde le cas de Donald Trump et des implications qu'il y a au niveau de la recherche. Alors, soit la recherche spatiale, soit la recherche médicale. Enfin, il y a pas mal de choses parce que c'est un président qui, quelque part, agit directement. Alors, en bien ou en mal, ça, on voit que c'est pas toujours un bon escient, mais en tout cas, il y a vraiment une interaction, une implication directe au niveau de la recherche. Et là, c'est un plan choc de Donald Trump pour transformer la NASA et l'idée de couper les liens avec la science. C'est le projet Athena, c'est le nom de code qui a été donné par Jared Isaacman dans un document confidentiel de 62 pages, un document qui a finalement été rendu public. Le site Politico a dévoilé ce que le milliardaire désormais envisagé pour prendre la tête de la NASA depuis une annonce de Donald Trump début novembre avait prévu pour changer en profondeur le fonctionnement de la NASA, l'agence spatiale américaine. Ce travail n'en était qu'à l'état de brouillon, mais il révèle en fait une vision assez précise et radicale que Jared Isaacman a du secteur spatial en général et du rôle de la NASA en particulier. Il a été écrit avant que celui-ci ne soit évincé en raison de ses liens forts avec Elon Musk et Donald Trump et devant l'opposition des démocrates. En fait, il décrit une organisation totale concentrée sur, je cite, le leadership américain dans l'espace, l'économie orbitale et l'accélération des grandes découvertes. Ce qui correspond en fait aux ambitions revues à la hausse à une époque où l'avance prise par les États-Unis est plus que jamais remise en cause face à la montée de la Chine notamment. Je vous rappelle cette émission qu'on a fait il y a 15 jours où on évoquait que pour l'instant c'est un petit peu la Chine qui prend la tête de la conquête spatiale, en tout cas en ce moment. Une des principales évolutions, c'est le rapport à la science elle-même. Jared Isaacman proposait de faire en sorte que la NASA ne produirait pas directement des données avec ses propres satellites, mais les achèterait à des entreprises commerciales. La science deviendrait donc ici, quelque part, une espèce de simple service payant, ce qui conduirait à d'importantes économies au sein de la NASA. Derrière, il y a toujours une question d'argent, il ne faut pas se leurrer. Dans le même esprit, il recommande que la NASA ne soit plus associée à la science climatique et que ce soit plutôt le rôle des universités et des académies directement. Alors, reste à savoir exactement ce qu'il entendait par cela, puisqu'il ne précise pas si cela concerne que les missions d'observation de la Terre ou si c'est l'ensemble des missions scientifiques de l'agence de la NASA. Ensuite, Jared Isaacman y suit un petit peu à la lettre de nombreuses idées souvent martelées par le président américain Donald Trump, à savoir l'annulation du lanceur géant de la NASA ainsi que de la station lunaire Gateway après la mission Artemis 3. C'est toujours dans une espèce de recherche d'économie, bien sûr. Il proposait également de revoir l'ensemble des centres de l'agence pour les moderniser et de réduire ceux qui ne seraient pas nécessaires. On est dans un contexte de rentabilité. Ainsi, il y a des projets qui ont été arrêtés et ce qui entraîne le mouvement de licenciement avec plus de 500 emplois supprimés, ce qui était déjà dans le viseur, ce qui est considéré comme étant trop cher et peu efficace. On a maintenant, en termes de politique scientifique de la NASA, un comportement qui est plutôt ce que l'on voit dans des entreprises, dans des grandes entreprises ou dans des grands groupes internationaux. Malgré tout, Isaacman n'oublie pas ses ambitions à propos de Mars. Le milliardaire compte en fait privilégier le développement d'un nouveau type de moteur basé sur la propulsion nucléaire pour pouvoir voyager plus rapidement jusqu'à Mars, voire au-delà. Alors reste à savoir à quel usage était destiné ce document qui était au départ confidentiel, qui a été rendu public. S'il s'agissait d'une préparation en vue d'une audition devant le Congrès, il y a fort à parier que sa candidature aurait été bloquée parce qu'il y a un grand nombre de mesures proposées qui ne sont pas du fait de l'administrateur de la NASA. Alors maintenant, son nom est à nouveau mentionné pour remplacer l'intérimaire Sean Duffy. Parce que Trump, il a exprimé le souhait de le nommer à nouveau 6 mois après, à peine il l'a évincé. Enfin bref, il est totalement inconstant, Donald Trump, on le sait très bien. Donc il le vire, il le remet, il le vire, il le remet. On ne sait plus où est-ce que ça en est. Mais derrière, vous avez quand même toute une politique spatiale qui est totalement incertaine. Et puis vous avez aussi, accessoirement, des gens qui y travaillent. Donc ils ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir. Ce document donc, qui a été mis en ligne pourrait donc devenir beaucoup plus concret si le milliardaire défend ses idées devant les élus. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez assez troublant. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine, on a quand même de plus en plus des articles qui apparaissent sur ce sujet-là, qui est qu'est-ce qu'il veut précisément, notamment au niveau de la recherche spatiale, parce que c'est quelque chose qui fait pas mal parler, et parce que derrière, il y a quand même des budgets qui sont faramineux. Mais d'un point de vue général, au niveau scientifique, au niveau médical, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est assez confus, c'est pas toujours cohérent, et le fait d'avoir des articles comme ça qui insistent sur cette incohérence nous laisse un petit peu troublés, parce que derrière il y a quand même pas mal d'entreprises, et puis vous avez dans cette course que l'on a de la conquête spatiale, la Chine qui elle poursuit son chemin, et puis l'Europe qui essaye de faire comme elle le peut, comme à chaque fois, mais en tout cas elle essaye aussi de poursuivre sa voie avec une indépendance et en essayant un petit peu de pouvoir consolider sa base, notamment franco-allemande. Donc voilà, c'est toujours intéressant parce que, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs années, cette décennie 2020 au niveau spatial est vraiment une décennie fascinante, et on voit très bien que en ce moment, les États-Unis sont plutôt dans une phase un petit peu de freinage et de ralentissement qui peut être profitable aux autres. On aura bien sûr l'occasion de revenir dans cette émission sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes, bien évidemment. Alors on écoute un petit peu de musique et on se retrouve toujours sur Graphite, à tout de suite.
Get away, all of my way. Get some.
Gateway, c'est Emeralds, l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Allez, on va partir en Méditerranée qui fait face à une disparition sans précédent des virus marins. C'est ce qu'annonce l'Institut Ciencias del Mar, l'Institut espagnol, en ce qui concerne l'historique des virus présents dans la mer. Les scientifiques espagnols se sont appuyés sur la plus ancienne base de données du monde. Cette disparition d'une partie de la vue contenue dans la mer s'est nettement accélérée depuis à peu près une quinzaine d'années. Pour les auteurs de cette étude, qui a été publiée dans la revue ISME Communications. La raison est évidente, c'est l'augmentation de la chaleur de l'eau qui anéantit l'ensemble de la vie marine jusqu'aux êtres les plus microscopiques. Et cette découverte représente parfaitement un processus en cours connu sous le nom d'oligotrophisation, c'est-à-dire l'appauvrissement progressif d'un milieu en éléments nutritifs. Moins de virus dans l'eau, en fait, ça pourrait être une bonne nouvelle. Après tout, il n'y a pas de virus, ça va, tant mieux. Et bien, c'est tout le contraire, selon les chercheurs. L'auteur principal de cette étude, qui s'appelle Javier López Alforja, il explique que ces êtres invisibles pour l'œil humain sont essentiels pour le fonctionnement des océans. Les virus marins jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Ils régulent les populations microbiennes, ils recyclent les nutriments, ils favorisent le transport du carbone vers les fonds océaniques, qui est un processus clé de la régulation du climat mondial. Donc, la disparition n'est pas anodine et elle est plutôt catastrophique. Après avoir analysé les eaux du nord-ouest de la Méditerranée, les chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle pour comprendre les liens entre les virus et leur environnement. C'est ce qui leur a permis de comprendre que cette disparition était directement liée au réchauffement des eaux et à la diminution des nutriments. Et ce qui se passe dans la mer ne reste pas dans la mer parce que ça a un impact sur Terre et ça a un impact sur nos sociétés humaines. Il y a un livre scientifique aux éditions Quay qui s'appelle « Les virus marins, simples parasites ou acteurs majeurs des écosystèmes aquatiques » qui explique un petit peu que ces virus sont, je cite, « des acteurs majeurs du fonctionnement des écosystèmes ». Les virus constituent l'entité biologique la plus petite, la plus abondante et la plus diversifiée connue à ce jour en milieu marin, où ils exercent de multiples fonctions. Outre leur rôle dans la mortalité cellulaire et la redistribution de la matière, les virus sont aussi un puissant vecteur d'évolution de leurs hôtes et représentent une source majeure de diversité génétique, riche de découvertes pour la recherche fondamentale et appliquée. Donc sans ces virus qui contrôlent la population microbienne et qui impactent à leur tour la quantité de nutriments présents dans l'eau, eh bien la faune marine s'effondre. Si les ressources de la mer disparaissent, alors la pêche va disparaître à son tour, ce qui va bouleverser bien sûr l'économie et notre alimentation. Donc le fait qu'on constate que la Méditerranée contient de moins en moins de virus, eh bien, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Plus la mer Méditerranée se réchauffe, moins il y a de virus dans l'eau. Ce sont donc les conclusions de cette équipe scientifique espagnole qui a effectué des relevés sur les 20 dernières années. Et c'est donc pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est pas souvent qu'on parle de la Méditerranée dans cette émission. Mais voilà, c'était intéressant aussi de mettre en avant un petit peu le travail de ces chercheurs espagnols. Je vous parlais tout à l'heure de Tchernobyl parce que je vais y arriver, pardon. Je vous parlais tout à l'heure de Tchernobyl avec cette arche qui avait été installée donc il y a à peine une dizaine d'années au-dessus du réacteur nucléaire. Et il y a un article qu'on avait déjà évoqué dans cette émission mais qui a été remis en avant à cette occasion parce qu'on a eu des observations assez récentes, notamment au mois d'octobre. On a constaté en fait au moins 3 chiens bleus qui ont été observés le 6 octobre 2025 près du site de la centrale de Tchernobyl. Les scientifiques du programme qui sont soutenus par une organisation, ils ont vraiment authentifié les clichés, ce sont bien des chiens bleus. Après plusieurs tentatives pour les approcher, l'équipe a découvert la source probable de cette teinte un peu étrange. Ce sont des toilettes portables endommagées situées à proximité. Ils semblent s'être roulés dans une substance accumulée sur leur fourrure. Nous pensons qu'elles provenaient de vieilles toilettes portables. C'est ce qu'explique le docteur Jennifer Betts, qui est la directrice médicale vétérinaire du programme. Nous ne disons en aucun cas que cela est lié aux radiations de Tchernobyl, disent-ils. Les chiens, selon elles, se portent bien. Tant qu'ils ne lèchent pas la majeure partie de cette substance, elle est probablement inoffensive. Ce n'est d'ailleurs pas une première, parce qu'on avait parlé déjà dans cette émission, on avait constaté en Russie en 2021 une meute de chiens bleus qui avait déjà été repérée près d'une ancienne usine chimique à Dzerzhinsk, c'est en Russie. Et dans ce cas, les animaux s'étaient roulés dans du sulfate de cuivre, qui est un pigment industriel. Et ces animaux sont les descendants des chiens domestiques abandonnés après la catastrophe de 1986, lorsque il y avait plus de 120 000 personnes qui avaient été évacuées de Pripyat et des environs. Et contre toute attente, eh bien, ces animaux, et notamment ces chiens domestiques, ont survécu et se sont adaptés à ce territoire totalement interdit désormais, à côté des sangliers, des renards, des oiseaux, et puis même des loups. Ils ont développé des mutations génétiques protectrices. Depuis 2019, Dogs of Tchernobyl a stérilisé plus de 1000 chiens et chats pour stabiliser cette population semi-sauvage. L'équipe précise que les traces colorées qu'elle applique temporairement lors des campagnes de stérilisation sont sans rapport avec ces fameuses teintes bleues un peu, comment dire, bizarre et étonnante. Nos marqueurs disparaissent en 2 ou 3 jours et ne couvrent qu'une petite zone de la tête. Donc, c'est un peu, voilà, on n'a pas nécessairement une explication bien bien précise de ce qui se passe là-bas. N'empêche que on a juste ajouté le mot Tchernobyl à ces chiens et puis comme ça, ça donne une espèce d'aura un petit peu mystique, bien sûr. Mais derrière les apparences, ces chiens bleus rappellent simplement à quel point la vie, même teintée de chimie, persiste dans la zone où l'humain a totalement disparu. Et il est certain qu'on aura vraisemblablement des recherches qui seront menées sur ces animaux parce qu'ils sont restés sur place, ils sont encore là, c'est-à-dire qu'ils sont encore vivants et qu'ils ont pu adapter, je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, en tout cas, développer des mutations génétiques, plutôt protectrices. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et à mon avis, il y aura sûrement dans quelques années des études qui seront portées sur ces animaux. Parce que si on arrive à comprendre comment ils ont pu se protéger face au danger de cette zone vraiment hyper radioactive, eh bien, ça pourrait être intéressant après de décliner ces résultats sur, peut-être sur d'autres applications ou dans d'autres contextes, bien évidemment. Donc voilà. En clair, ces chiens bleus, ils existent. Apparemment, ils se sont roulés dans des endroits qu'il ne fallait pas. Donc, ce n'est pas nécessairement un lien direct avec ce qui s'est passé à Tchernobyl. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des chiens encore là-bas et qu'il y a toute une faune qui est plus prospérée alors que l'homme, lui, a totalement déserté cette zone. On va parler des chauves-souris. Il y a 2 petits articles qui ont été mis en ligne sur le site Futura Science que je trouvais intéressant d'évoquer parce qu'on n'entend pas nécessairement beaucoup parler des chauves-souris dans cette émission, ce qui nous permet un petit peu de comprendre un petit peu aussi pourquoi les chauves-souris ralentissent leur cœur pour tenir 6 mois en période d'hibernation. Comprendre ce processus n'est pas seulement une question de curiosité naturelle, c'est essentiel pour la conservation de ces espèces fragiles. En fait, le secret de cette endurance, elle réside dans une incroyable maîtrise de leur métabolisme, parce qu'au lieu de migrer vers des climats plus chauds, il y a de nombreuses espèces de chauves-souris qui choisissent de s'isoler et de fonctionner au ralenti. L'entrée en hibernation chez les chauves-souris n'est pas aléatoire, mais elle est dictée par une combinaison de signaux environnementaux et internes. Alors le facteur le plus évident, c'est bien sûr la baisse progressive des températures ambiantes, généralement en dessous de 10 degrés qui coïncide avec la raréfaction des insectes. Cependant, la décision de s'endormir, elle est bien prise en amont. Alors typiquement, la période s'étend de la fin de l'automne, donc octobre-novembre, jusqu'au début du printemps mars-avril. Et ce timing est crucial parce qu'avant cette phase, les chauves-souris doivent accumuler d'importantes réserves de graisse brune. Ça va servir un petit peu de carburant durant les longs mois de jeûne. Et le signal final est souvent le froid persistant et l'épuisement des ressources alimentaires qui vont forcer l'animal à chercher immédiatement un site d'hivernage adéquat qu'on appelle un hibernaculum. Le cœur de la survie durant l'hibernation réside en fait dans la capacité de la chauve-souris à basculer son corps en une espèce de mode veille un petit peu poussée. Et les changements sont spectaculaires. Le ralentissement cardiaque est sans doute le plus impressionnant parce qu'en activité normale, le cœur d'une chauve-souris peut battre entre 300 à 600 fois par minute, quand même, pas mal. Et pendant donc cette phase de torpeur un peu hivernale, le rythme il chute drastiquement pour ne plus dépasser 10 à 20 battements par minute. Donc on peut passer de 600 à 10, quand même assez faramineux, une réduction de près de 95%. Parallèlement, la température corporelle, elle s'aligne presque sur celle de l'environnement ambiant, c'est-à-dire souvent proche de 0 degré. Quand même assez impressionnant également. La respiration devient si lente qu'il peut s'écouler plusieurs minutes entre chaque inspiration et le métabolisme global est réduit à un niveau minimum, ce qui permet aux réserves de graisse d'être utilisées avec une parcimonie incroyable pour les besoins vitaux. Alors même si le processus semble immuable, l'hibernation est très vulnérable. Le plus grand danger pour la survie de la chauve-souris n'est pas le froid, mais les réveils intempestifs, parce que chaque réveil, même bref, exige une énorme dépense énergétique, parce que la chauve-souris doit dépenser des réserves précieuses de graisse brune pour réchauffer son corps de plusieurs dizaines de degrés Celsius en quelques heures. C'est un processus qui coûte extrêmement cher en énergie, et s'ils sont trop fréquents, eh bien ces réveils peuvent épuiser les réserves de graisse qui ont été accumulées. Alors, ces réveils peuvent être causés par des perturbations humaines, des changements de température trop brutaux, des maladies également. Et si la chauve-souris n'a plus assez d'énergie pour tenir les 6 mois, elle est contrainte de sortir prématurément de ce fameux site d'hivernage qui est donc l'hibernaculum. Et puis, elle est contrainte de sortir, souvent pour mourir de faim ou de froid, en fait. Donc, la conservation de ces sites d'hivernage, ça peut être des grottes, ça peut être des cavités, ça peut être des mines, et la protection contre toute intrusion humaine sont donc des mesures de conservation essentielles pour la survie hivernale des chauves-souris. Donc, il faut bien sûr les protéger. Et le deuxième article, il est intéressant parce qu'il parle de ce qui se passe du côté de Hambourg sur la corniche d'un abri naturel qui est appelé le Kalkberg de Segeberg et les chercheurs ils ont immortalisé des scènes qui se passent la nuit. Il y a eu plusieurs tentatives de prédation qui ont été enregistrées, dont 13 succès de rats bruns qui s'emparent de chauves-souris. Donc c'est des rats qui semblent adopter deux stratégies, c'est-à-dire capturer les chauves-souris au repos ou les intercepter directement en vol. Des rats attrapent des chauves-souris en vol. On n'a encore jamais vu ça. Selon une étude qui a été publiée dans la revue Global Ecology and Conversations, les rats patrouillaient à l'entrée de la grotte. Ils se dressaient sur leurs pattes arrière et ils utilisaient leur queue comme balancier. Et dans l'obscurité quasi totale, ils se fiaient vraisemblablement au courant d'air qui était détecté par leurs moustaches plutôt qu'à leur vue, parce qu'on était en pleine nuit. Et les caméras ont même capturé des attaques fulgurantes où les rats saisissaient les chauves-souris, les tuaient d'une morsure, puis les emportaient aussitôt. Une première quand même dans le monde animal qui est documentée. Et donc, dans une autre zone, il n'y a aucune attaque directe qui a été filmée, mais il y a des rats qui ont été repérés autour des crevasses et de plusieurs carcasses de chauves-souris qui ont été retrouvées à proximité. Et ces observations laissent penser que ce comportement pourrait être plus répandu qu'on ne le croit. L'espèce invasive parmi les plus prolifiques du monde, le rat brun, est déjà connue pour avoir décimé des populations d'animaux indigènes, notamment sur les îles. Et sa présence croissante dans les zones urbaines et naturelles allemandes pourrait désormais menacer donc les chauves-souris locales. Les chercheurs appellent donc à renforcer les mesures de protection avant que ces prédateurs inattendus ne bouleversent davantage l'équilibre écologique. Donc voilà, on a maintenant des rats qui attrapent des chauves-souris en plein vol. On aura tout vu. C'est pas possible. Allez, on écoute à moitié dans la fête de Barbette qu'on va découvrir ensemble sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
C'est pas la peine de réfléchir, pas la peine de mentir. De toute façon, t'es pas du genre, donc fonce et on démarre. Le monde est devenu terne, même la terre prend des rides. Je veux pas en faire une merde là. Toujours à moitié dans la fête, à moitié dans le vide. Est-ce que les gens font semblant quand ils se sourient? À moitié dans la tête, à moitié sur le fil. Oh mon Dieu, trop souvent, je me dis. Toujours à moitié dans ma tête, les gens les entends plus. Toujours à moitié dans la fête, mon cœur je ressens plus. Toujours à moitié dans ma tête, les gens les entends plus. Toujours à moitié dans la fête, mon cœur je ressens plus.
parler mon cœur, me sentir comme les fleurs de mai. Toujours à moitié dans la fête, à moitié dans le vide. Est-ce que les gens sont sérieux quand ils se sourient? À moitié dans la tête, à moitié sur le fil. Oh mon Dieu, trop souvent je me dis. Toujours à moitié dans ma tête, les gens je les entends plus. Toujours à moitié dans la fête, mon cœur je ressens plus. Toujours à moitié dans ma tête, les gens je les entends plus. Toujours à moitié dans la fête.
À moitié dans la fête, Barbette sur Antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et on continue de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur Biotine. Vous nous écoutez sur Graphite 94.9 sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, que ce soit en direct ou en différé avec les podcasts que vous trouvez de toutes les émissions de Graphite sur le site Graphite.net. Émission tous les samedis entre 12h et 13h, rediffusion le mardi matin, bien sûr, à 10h. Et on va parler des drones, avec des drones assez particuliers et assez intéressants. On a connu cet été des panaches de fumée qui s'élèvent au-dessus de forêts de conifères, un feu qui ravage des centaines d'hectares de végétation, des pompiers qui luttent plusieurs jours d'affilée pour arriver à fixer un feu. Ce sont les méga-feux, c'est ce que la France et de nombreux autres pays ont pu connaître cet été. La question, c'est comment on pourrait prévenir et limiter les dégâts plutôt que de les subir. Eh bien, des drones spécialisés dans l'analyse des fumées d'incendie pourraient faire partie de la solution. C'est en tout cas le projet mené par une équipe de chercheurs de l'Université du Minnesota. Les scientifiques expérimentent l'utilisation d'un essaim de drones lors de brûlages dirigés. Et donc, ils ont des capteurs optiques spécifiques et ces engins servent à relever l'aspect de la fumée et de ses éventuelles particules incandescentes. Les chercheurs, ils veulent en fait déterminer la distance et l'altitude maximale que peuvent atteindre d'éventuelles braises présentes dans les fumées et leur participation en fait à la propagation des feux de forêt. Les données collectées sont donc transmises au sol et leur analyse permet de les modéliser en trois dimensions. En fait, l'idée, c'est de comprendre un petit peu les schémas d'évolution d'un feu. En étudiant le comportement de ces fumées, les chercheurs estiment qu'il sera possible de limiter les dégâts en anticipant en fait les actions qu'on pourrait mener. Et à l'avenir, ces drones permettront également de mener une surveillance préventive à grande échelle. En tout, l'équipe a réalisé jusqu'à présent 11 essais en conditions réelles et lors de ces manœuvres de collecte des particules, 5 drones d'environ 5 kg sillonnaient le ciel à différentes altitudes. Ils sont dopés à l'intelligence artificielle, ces drones. Ils peuvent voler de façon totalement autonome et l'un de ces drones sert de plateforme de synchronisation, sans quelque sorte leur plateforme de commandement. Et donc en positionnant ces 4 drones sur plusieurs couches, la plateforme leur permet de mesurer en simultané la composition des particules à différentes altitudes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on a différentes informations à différentes altitudes. Et l'autonomie des drones reste pour le moment limitée à environ 25 minutes, donc effectivement, ça aurait ça pourrait être plus performant, mais c'est déjà pas mal. Les chercheurs veulent optimiser cette durée de vol pour parvenir, bien sûr, à collecter un maximum de données. Et donc, avec leur dernière expérimentation, eh bien, pour la première fois, l'équipe est parvenue à caractériser de façon précise la morphologie et la forme de ces particules qui composent les fumées. Il apparaît qu'elles ont une forme très irrégulière. Certaines volutes sont poreuses et présentent des niveaux de densité variables. Mais avec ces caractéristiques plus précises, les chercheurs ont pu avancer sur la modélisation du comportement de ces fumées et leur impact sur un feu. Alors maintenir en l'air, dans la fumée, ces drones n'a pas été une mince affaire, hein, parce que lors des premiers vols, les conceptions précédentes des aéronefs se sont écrasées. La navigation autonome n'était pas au point. Les capteurs permettant de collecter les données étaient mal calibrés. Bref, c'était pas vraiment bien abouti au départ. Des problèmes un peu de jeunesse qui ont été réglés et la propulsion des drones a été optimisée, notamment grâce à des hélices plus performantes. Alors, bien que ce projet ait encore du chemin à parcourir avant de pouvoir être utilisé pour lutter contre les feux de forêt à grande échelle, eh bien, cette recherche représente une étape importante vers l'utilisation de systèmes de drones entièrement autonomes pour les interventions d'urgence et les missions de recherche scientifique. Alors, cette expérimentation est loin d'être la seule qui est menée pour limiter la profusion des méga-feux. Pour anticiper les départs des services de lutte contre les incendies, les États-Unis ont mis en place différents équipements de surveillance de ces incendies, et notamment le cas de deux nouveaux satellites qui ont été positionnés au-dessus de l'équateur. Ils permettent de détecter les nouvelles sources de chaleur et les signalent aux stations météorologiques locales. Et cette année, ils ont permis de repérer 19 feux en Oklahoma et d'éviter une estimation de 850 millions de dollars de dégâts matériels selon la agence qui les opère. Alors de son côté, au Minnesota, il y a une autre société qui a installé des pylônes équipés de caméras haute définition dopées à l'intelligence artificielle. Ils sont positionnés à proximité des lignes électriques et en cas de détection d'incendie, les pompiers locaux sont immédiatement alertés et dans tous les cas, ces recherches et ces opérations de surveillance et de détection anticipée sont devenues une urgence avec un changement climatique qui rend les feux de forêt plus destructeur et plus fréquent. Donc voilà, on a maintenant peut-être un petit peu plus d'informations sur la composition, on va dire, entre guillemets, de ces feux, la composition et le comportement, ce qui permettra d'avoir peut-être une réponse plus adéquate et plus utile, bien évidemment. On va parler un petit peu de médecine et peut-être aussi de santé, et notamment des sodas, qui représentent aujourd'hui l'une des boissons les plus populaires du monde, mais leur impact sur notre longévité préoccupe désormais la communauté scientifique. Il y a plusieurs études qui abordent ce sujet-là maintenant depuis plusieurs années, mais il y a des recherches récentes qui attestent que la consommation régulière de ces sodas, donc ces boissons gazeuses et sucrées, déclenche des mécanismes biologiques qui accélèrent le vieillissement de nos cellules de manière significative. L'Université de Californie à San Francisco a mené une étude assez intéressante sur 5000 participants adultes. Les travaux ont été publiés dans la revue American Journal of Public Health. Les chercheurs ont analysé la longueur en fait des chromosomes. Ils ont regardé précisément, c'est ça qui est intéressant, quand on veut savoir, avoir une estimation, une indication de vieillissement de nos cellules, on regarde les extrémités de nos chromosomes. Ces extrémités s'appellent les télomères. Et plus cette zone raccourcit, plus on a un indice du fait que la cellule, elle est de plus en plus vieille. Donc on a quelque part une image du vieillissement cellulaire. Et les résultats sont assez saisissants parce que les personnes qui consomment quotidiennement 350 millilitres de soda, ça fait combien ça ? Ça fait une belle canette, on va dire, de soda, présente justement des télomères considérablement raccourcis. Et cette dégradation de ces extrémités des chromosomes équivaut à un vieillissement cellulaire supplémentaire de presque 4 à 5 ans, ce qui est quand même assez important, pas négligeable. En comparaison, l'effet du tabagisme sur ces structures protectrices reste moins marqué que celui des boissons sucrées. Le docteur Elissa Eppel, qui est directrice de cette recherche, explique que le fructose qui est contenu dans ces boissons perturbe gravement le métabolisme cellulaire, et cette perturbation génère un stress oxydatif intense qui va endommager directement l'ADN et qui va accélérer un petit peu le processus naturel de vieillissement. Le sucre présent dans les soldats déclenche plusieurs réactions délétères dans notre organisme. Alors, initialement, il provoque des pics glycémiques répétés qui vont fragiliser les parois vasculaires et vont favoriser l'inflammation chronique. Et cette inflammation systémique constitue l'un des facteurs majeurs du vieillissement prématuré. Deuxièmement, la consommation excessive de fructose va perturber la production d'énergie au niveau des mitochondries. Alors, les mitochondries, c'est dans nos cellules, ce sont un petit peu les batteries de nos cellules. Hein. C'est un petit peu les centrales énergétiques de nos cellules. Et elles fonctionnent de façon moins efficace si on boit de plus en plus de soda. Et c'est ce que montre justement cette étude. Et le fait d'avoir ces mitochondries qui ne vont pas fonctionner de façon opérationnelle optimale, ça va accélérer la dégradation des cellules et ça va donc réduire notre capacité de pouvoir régénérer nos cellules, donc le vieillissement. Bref, les sodas contiennent également des additifs chimiques et des conservateurs qui vont amplifier le stress oxydatif, donc c'est des substances qui vont générer des molécules instables qui vont attaquer nos cellules et qui vont accélérer leur détérioration. Alors, il y a plusieurs options quand même qui permettent de remplacer de façon avantageuse ces boissons néfastes. L'eau, bien sûr, que l'on peut agrémenter de tranches de citron, de concombre ou de menthe fraîche, nous dit-on. Le thé également, qui peut avoir des impacts plutôt positifs. Mais alors là, voilà, on constate de plus en plus. Et ce sont des études qui se répètent, hein, quelque part. On a déjà évoqué cela dans cette émission, mais là qui se confirme encore, c'est-à-dire qu'on voit très bien de plus en plus les impacts négatifs de ces boissons gazeuses sucrées. Et là, on constate que ça, en plus, ça fait vieillir notre corps, mon Dieu. On nous dit même que le tabac, finalement, fait moins vieillir. Ah, choisis ton camp, camarade. Allez, écoute un dernier titre avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Keep on Falling, c'était Voxlo sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain. Si vous êtes sage, on parlera d'araignée. Ah. Ou si vous n'êtes pas sage, on parlera d'autre chose. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Rediffusion mardi à 10h. Et on se retrouve samedi prochain sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur l'amour des FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Un samedi prochain, à bientôt. Au revoir.